Soyez les bienvenus sur Inter, 7h30. Le journal Sébastien Legénie, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Au sommaire, l'adieu de Valéry Giscard d'Estaing, l'ancien président de la République, s'est éteint hier soir à l'âge de 94 ans, l'une des plus longues trajectoires politiques de la 5e République. Une carrière marquée par son lien avec l'Auvergne, notamment, on y reviendra. Un septennat miné aussi par une affaire retentissante, celle des diamants de Bokassa, retour sur ce scandale. Retour aussi sur son bilan, Valéry Giscard d'Estaing, infatigable défenseur de l'Europe. À suivre aussi dans ce journal, un président qui s'adresse aux jeunes, on parle là d'Emmanuel Macron. Interview fleuve cet après-midi sur le Média Brut. Et puis enfin, direction Manchester pour finir, une ville anglaise frappée de plein fouet par le Covid et qui revit avec l'arrivée imminente du vaccin.
Et la suite de cette édition spéciale du 7-9 consacrée à Valéry Giscard d'Estaing. Le prochain invité au micro de Léa Salamé dans 20 minutes sera l'ancien président de l'UDI, l'ancien ministre Jean-Louis Borloo.
France Inter.
Il se rêvait, Sébastien, en Kennedy français.
Ouais, Valéry Giscard d'Estaing est donc mort hier soir des suites du Covid-19. Sa santé était très fragile depuis ces derniers mois. Il sera enterré dans la plus stricte intimité. VGE, comme on avait coutume de l'appeler, à l'une des plus longues carrières politiques de l'histoire de France. Il devient le troisième président de la 5e République le 27 mai 1974. Un septennat et une carrière qui aura marqué la France, mais aussi une région, l'Auvergne. Histoire d'un amour amer avec les Français et en particulier avec les Auvergnats, récit d'Emmanuel Moreau de France Bleu Pays d'Auvergne.
Valéry Giscard d'Estaing incarnait la modernité, un président jeune qui s'exprimait même en anglais le soir de son élection.
France has elected its president.
L'accent n'est pas parfait, c'est vrai, mais c'était nouveau, tout comme lorsque Valéry Giscard d'Estaing était suivi par les journalistes en moto lors de son investiture, en l'occurrence Jean-Claude Bourret.
Le président Giscard d'Estaing lui-même au volant de sa DS noire qui conduit tranquillement.
L'apogée d'une carrière politique à 48 ans seulement. Valéry Giscard d'Estaing a toujours été précoce, double bachelier à 16 ans, polytechnique, l'ENA, député à 29 ans, ministre à 32 ans. Très brillant pour Alain Duhamel, le meilleur connaisseur de la vie politique sous la 5e République.
C'était un homme qui calculait les choses et qu'il faut dire, les interpréter avec un brio que je n'ai jamais connu chez aucun autre candidat, alors que j'ai quand même suivi toutes les élections présidentielles.
Une intelligence supérieure, mais le lien avec les Français seront très vite. De moderne, VGE devient vite ringard, ses efforts pour être populaire se retournent contre lui, et il ne réussit pas à tenir sa promesse de campagne, de regarder les Français au fond des yeux, une promesse faite depuis la mairie de Chamalières, son fief. Il y reviendra 18 ans dans son bureau de président du Conseil régional d'Auvergne, un président qui laissera une trace.
Viva Vulcania!
Par exemple Vulcania, mais là encore, ce mandat s'est terminé par une défaite amère, au point que Valéry Giscard d'Estaing ne reviendra que très rarement en Auvergne, ou alors pour voter, comme lors de la présidentielle 2012.
J'aime beaucoup l'Auvergne, et puis toute ma vie publique s'est déroulée ici.
Malgré tout, Valéry Giscard d'Estaing finira par vendre son château de Chanonat et couper tous les ponts avec l'Auvergne. Il ne sera d'ailleurs pas enterré dans le Puy-de-Dôme. Il avait annoncé il y a longtemps qu'il serait inhumé à Auton, sur le domaine de la famille de son épouse Anémone.
Valéry Giscard d'Estaing, en quelques grandes réformes, c'est l'abaissement de la majorité à 18 ans, la légalisation de l'IVG, la fin de l'ORTF ou encore le divorce par consentement mutuel. Mais après 7 années au pouvoir, il finira par céder la place à François Mitterrand en 81. Une vraie blessure, une défaite qu'il n'avait pas imaginée, dira-t-il plus tard. Une défaite due notamment à une affaire retentissante, celle des diamants de Bokassa. Retour sur ses accusations avec Benoît Colomba.
C'est le 10 octobre 1979 que le canard enchaîné sous la plume de Pierre Péan sort l'affaire des diamants. Une note d'avril 1973, signée du président centrafricain Jean-Bedel Bokassa, explique que Valéry Giscard d'Estaing, alors ministre des Finances, aurait reçu en cadeau une plaquette de diamants de 30 carats, estimée à 1 million de francs de l'époque. L'affaire sent le règlement de compte au sein de la droite française. Un ancien conseiller juridique de Bokassa et un proche du monsieur Afrique du gaullisme, Jacques Faucard, ne sont pas pour rien dans la révélation de cette affaire. Il faut dire que, 3 semaines avant la publication de l'article du Canard, les services secrets français ont chassé du pouvoir l'empereur Bokassa Ier, dont le sacre, en 1977, avait été financé par Paris. À l'époque, VGE l'appelait encore son parent et ami. Persuadé que l'affaire va s'éteindre par elle-même, le chef de l'État se réfugie dans le silence et attend 1 mois et demi avant de répondre. Le 27 novembre 1979, sur Antenne 2, il affiche publiquement son mépris.
J'oppose un démenti catégorique et j'ajoute méprisant. Il faut laisser les choses basses mourir de leur propre poison.
Et pourtant, les diamants de Bokassa vont bel et bien empoisonner la fin du septennat de VGE. Lors de la campagne présidentielle en 1980, les gros bras du RPR et de Charles Pasqua colleront même des diamants à la place des yeux du candidat Giscard sur ses affiches. Et c'est François Mitterrand qui est élu le 10 mai 80.
Benoît Colomba. Parmi les réactions des anciens présidents, celle de François Hollande qui regrette que la France perde un homme d'État qui a fait le choix de l'ouverture au monde, un président résolument européen. Selon lui, Valéry Giscard d'Estaing, en effet, a passé sa vie à défendre l'Europe. Bonjour Isabelle Labéry.
Bonjour.
L'engagement européen chez lui correspond à un engagement profond qui a traversé toute sa trajectoire politique et personnelle.
Oui, l'Europe, c'est son ADN politique, car son premier grand discours à l'Assemblée nationale en 57, le jeune Giscard le consacre au traité de Rome, acte de naissance de la communauté économique européenne. Quelques années plus tard, il rencontre l'Allemand Helmut Schmidt, comme lui ministre de l'économie. Et c'est le début d'une amitié profonde, indéfectible, qui va bien au-delà de la complicité politique. Les deux hommes sont élus d'ailleurs à quelques jours d'intervalle, l'un président de la République, l'autre chancelier, et leur combat commun débouche sur des réformes majeures. La création du Conseil européen qui réunit régulièrement les chefs d'État et de gouvernement, la mise en place du système monétaire européen qui pose les fondations de l'euro. Nous sommes en 79, année où le Parlement européen est pour la première fois élu au suffrage universel direct. Au début des années 2000, VGE trouve un nouveau souffle dans la défense de la Constitution européenne. Il ne s'économise pas, court les capitales avec enthousiasme pour vendre ce texte. Mais en 2005, c'est la douche froide. Les Français disent non par référendum. Giscard n'abandonne pas le combat. En 2014, il publie son dernier ouvrage « Europa », dans lequel il propose de recentrer le projet politique européen autour de quelques pays seulement pour plus d'efficacité. C'est le programme politique qu'il laisse à ses héritiers.
Isabelle Labéry, la rédaction internationale de Radio France, merci. À la fin de sa vie, Valéry Giscard d'Estaing s'était consacré en particulier à la littérature et ses politiques, mémoires, romans, un président qui garda aussi toujours la fierté d'avoir initié la transformation de la gare d'Orsay en musée, le musée d'Orsay. Giscard était revenu dans ce musée aux côtés de Vincent Josse. C'était en 2006, une visite intime. Écoutez cet extrait savoureux. Giscard est face à un tableau célèbre, l'origine du monde de Gustave Courbet, qui trouble encore l'ancien président.
C'est pas que l'origine du monde ne m'inspire pas, mais c'est difficile à décrire en termes de radio. C'est un tableau. Alors,
vous connaissez ce tableau ?
Est-ce que vos auditeurs le connaissent ? Oui.
Je vous laisse faire, monsieur le président.
Oui, non, c'est... si vous voulez bien le décrire, je le commenterai. Mais enfin, c'est admirable comme peinture, il faut dire, et très fort. Enfin.
Moi, je trouve que le titre est aussi beau que le tableau. L'origine du monde, c'est un titre formidable.
Oui, mais il faut se mettre dans les cultures des différentes époques. Il y avait des choses qu'on ne montrait pas. Il y a d'ailleurs toujours des choses qu'on ne montre pas. Donc là, il a choisi de montrer quelque chose qu'on ne montrait pas, en fait. Et il l'a fait avec un immense talent.
Mais je trouve qu'aujourd'hui, en 2006, vous et moi, Monsieur le Président, on est assez timide là, devant cette œuvre, assez prude, assez intimidé même.
Encore, encore.
On n'a pas osé, ni vous ni moi, le décrire, ce tableau.
Vous auriez pu.
Voilà, le président académicien formidable, Valéry Giscard d'Estaing, au micro de Vincent Josse en 2006. On y revient pendant tout le 7-9 sur la mort de VGE.
Il est 7h38, Sébastien, d'un jeune président l'autre.
Oui, Emmanuel Macron qui va passer l'oral sur Brut, un média en ligne surtout regardé par la jeunesse. Ça devait être aujourd'hui, ce sera finalement décalé à demain, deux heures pendant lesquelles le chef de l'État reviendra sur les violences, la laïcité, la crise sanitaire, l'environnement, une stratégie qui rappelle furieusement sa campagne de 2017. Maxence Lambrac.
Février 2017, Emmanuel Macron répond à Combini.
Hashtag progressisme.
Puis dialogue sur Snapchat.
Est-ce que vous pouvez nous montrer votre fil Snapchat préféré ?
Ok, je crois que c'est celui-là.
Avant les européennes, l'an dernier, il s'invite chez Hugo Décrypte sur YouTube.
Ne votez pas contre. Voter pour.
Le président veut continuer de casser les codes, de se montrer moderne, simple, accessible, résume un conseiller de l'exécutif. Je ne sais pas combien de jeunes seront vraiment devant leurs écrans à 16h, admet un marcheur. Peu importe, l'essentiel c'est de se montrer proche d'eux, de garder cet ADN. L'Élysée imagine cette séquence depuis plusieurs semaines pour aller, je cite, « chercher les 15-30 ans qui se détournent du débat démocratique, se mettre à leur hauteur et les rassurer », ajoute un ministre. Ils souffrent énormément du reconfinement, sont scandalisés par les violences des forces de l'ordre, ne comprennent pas le sens des lois, sécurité globale, séparatisme, laïcité. Emmanuel Macron répondra directement aux internautes pendant plus d'une demi-heure et ses questions-réponses seront vite isolées dans de courtes vidéos pour les réseaux sociaux.
Quand je dis quelque chose, c'est jamais pour rien dire.
On va lancer une mode, espère un conseiller du président qui se méfie des innovations de Jean-Luc Mélenchon dans une future campagne présidentielle. que l'Élysée imagine déjà en bonne partie dématérialisée.
Maxence Lambrec sur un tout autre sujet. Devant les sénateurs, hier, Emmanuel Macron a clairement évacué l'idée d'un retour de la réforme des retraites tant que la crise sanitaire perdurerait. Autre prise de parole politique très attendue aujourd'hui, celle du Premier ministre. Jean Castex, conférence de presse ce soir aux côtés de plusieurs ministres, notamment sur la question des vaccins, mais aussi de la stratégie des tests, des dépistages massifs auront lieu dans 3 villes dans les prochaines semaines. Saint-Étienne, Le Havre, une 3e ville dans le Nord, a précisé. Au Royaume-Uni, le vaccin sera bientôt une réalité. L'agence britannique du médicament a donné son aval hier à celui de Pfizer. Un rayon de soleil dans la grisaille, notamment à Manchester, dans un pays déconfiné, mais où les restrictions restent très contraignantes, en particulier dans le Nord du pays. Le vaccin pourrait changer la vie, Richard Place.
Un gros Père Noël décoré de guirlandes en plein centre-ville, c'est là que Victoria a emmené sa petite fille pour la voir sourire et s'amuser. Les nouveaux éclairages de Manchester n'auraient pourtant pas suffi à réjouir cette jeune maman traumatisée par des mois de restrictions.
Je n'ai pas vu mes parents depuis le début du premier confinement en mars. Ma mère est malade, elle ne doit être en contact avec personne, c'est trop dangereux pour elle. Alors l'arrivée de ce vaccin, ça me fait vraiment plaisir. Ma fille veut voir sa grand-mère, elle aussi elle souffre de la situation. Je croise les doigts pour que tout se passe bien et que l'on puisse revenir à une vie normale.
Cette ville est triste et ne vit plus. Entre télétravail et pas de travail du tout, pour Francis, privé de son emploi de serveur, la fin du confinement en Angleterre ne change pas grand-chose ici.
Évidemment, on a tous envie de reprendre notre quotidien habituel entre les confinements, les restrictions, on ne vit plus. Les commerces sont fermés, les bars et les restaurants aussi. Il nous tarde même de retourner au travail.
Cette ville du Nord est devenue le symbole de la résistance au gouvernement quand son maire, travailliste, s'est opposé aux restrictions sanitaires décidées par le gouvernement conservateur. Mais sans succès finalement. Alors ici, ce vaccin est en espoir. Manchester, Richard Place, France Inter.
Voilà, Manchester battu également hier par le PSG, les Parisiens qui sont en bonne position pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. C'est du foot.
Sébastien Legénie, merci.